Donc, vous installez votre PowerPoint. Je vais présenter Jean-Claude Casadegno. Il est membre de l'Association francophone de gestion des ressources humaines, professeur, consultant, chercheur à l'ECM de Clermont-Ferrand. Les axes de recherche de Jean-Claude Casadegno portent notamment sur l'exercice du pouvoir chez les managers et les conséquences, je préciserai, vis-à-vis d'aspects narcissiques chez les individus. Alors, outre les nombreuses publications remarquables, dont certaines développent également des aspects d'analyse de pathologie du pouvoir, Jean-Claude Casadegno a créé une revue numérique, Quatre temps du management. Elle est destinée à l'information et à l'auto-formation des managers. Et nous lui laisserons le soin de présenter cette revue en quelques mots, peut-être à la fin de son intervention, s'il le désire. Je vous laisse la parole.
Bien, juste bon pour me rectifier, parce que vous avez fait une présentation très élogieuse de ma modeste personne. Je n'ai écrit que deux articles, hélas, j'aurais bien aimé en écrire plus.
Ah bah, j'en ai relevé plus que ça.
Oui, mais c'est vrai que j'ai donc lancé une revue qui s'appelle Les 4 temps du management, dans lequel il y a des articles, effectivement, mais qui n'ont pas une prétention, disons, académique. Voilà, donc enfin, moi, c'est vrai que j'ai surtout une expérience de consultant. Je suis devenu professeur, peut-être par opportunisme, et puis petit à petit par quand même passion. Et je me définirais plutôt comme un consultant senior et un chercheur junior. Voilà. Bien. Alors, il se trouve que le sujet sur lequel vous m'avez demandé de réfléchir, finalement, je suis tout à fait dans la même, orientation que celle développée par M. Trépeau. Donc, il n'y aura pas de... Comment dirais-je, que je n'ai pas rencontré avant. Donc, je suis désolé si... Vous aurez l'impression d'une répétition, je le dirai sans doute peut-être différemment, en tout cas j'espère. C'est vrai qu'en tant que consultant, pendant des années, je dois confesser que j'ai finalement contribué à mettre en place beaucoup de procédures que je juge aujourd'hui relativement orthopédiques. Et c'est vrai qu'à la lumière des théories, disons, que nous proposent les chercheurs, j'en ressens une certaine culpabilité. Et je viens donc ici me réparer et confesser donc mes péchés. Voilà. Voilà. Et donc, c'est vrai que l'occasion de vous rencontrer m'a amené à m'interroger sur justement les risques symboliques, en général, des procédures de management, je dirais. Bon, il se trouve que j'ai choisi l'évaluation parce que vous m'avez invité à le faire, étant donné que ma désorientation face à votre proposition qui m'intéressait vivement, c'est-à-dire que j'étais partagé à la fois entre le désir d'y participer et m'interrogeant sur la capacité à pouvoir le faire. Oui, mais finalement, je me suis dit, ça valait le coup de tenter l'expérience, et j'en tire effectivement un éclairage intéressant. Donc, moi, j'ai prévu 7 points, dont certains vont être une répétition, différente, j'espère en tout cas. Alors, c'est vrai que je trouve qu'on est dans des organisations assez étonnantes, d'évaluation permanente, quoi. Tout le monde s'évalue, ça commence très tôt à la maternelle. Donc, je dirais qu'il y a déjà un dressage à l'évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, on nous prépare à la compétition, au tri, à la sélection, et que ça commence très tôt. Et puis ensuite, dans l'entreprise, finalement, on retrouve des processus qui ne sont pas propres à l'entreprise, mais qu'on retrouve dans la société. Donc tout le monde se jauge, peut-être parce que nous sommes dans la lutte des places, et qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, je ne sais pas. Mais il y a certainement derrière des raisons assez archaïques qui nous amènent à être dans cette logique, disons, de différenciation permanente. Donc bon, ok, voilà. Alors c'est vrai que dans l'entreprise, ça commence déjà avec le recrutement. Donc là aussi, on est évalué. Moi, j'ai raté tous mes entretiens de recrutement, donc c'est pour ça que j'étais consultant. Quand on ne peut pas être cadre dans une entreprise, il paraît qu'on est consultant. Bon, je ne vous donne pas la suite parce qu'elle est assez terrible pour les professeurs. Bon. Alors ensuite, évaluation de performance.
On précisera après.
Non, ça restera. C'est une plaisanterie que j'ai entendue en entreprise. Donc je viens peut-être là aussi m'en libérer. Enfin bref, parce qu'effectivement, dans l'entreprise, on a quand même affaire à des normes extrêmement contraignantes. Et moi-même, pour tout vous dire... j'ai quand même une formation au départ de psychologue clinicien que j'ai dû cacher pendant des années. Et il se trouve qu'aujourd'hui, comme les entreprises deviennent folles, on s'intéresse à la clinique. Donc du coup, je m'autorise enfin à réutiliser ces théories que pendant des années, j'avais dû dissimuler. Et j'avançais donc masqué, ce qui a été assez coûteux pour moi. Mais enfin, donc voilà. Donc évaluation de performance, évaluation sur les résultats, évaluation des compétences, évaluation des processus. Maintenant, on certifie les compétences en entreprise. Alors, c'est vrai que la FNOR, en plus, s'est emparée de tout ça. avec les normes ISO 9000 version 2001. Donc être évalué, être certifié devient un prestige, comme être momifié lorsqu'on est un roi égyptien d'ailleurs peut-être. Mais enfin, bon. Et je trouve qu'il y a un certain paradoxe d'ailleurs entre cette folie de l'évaluation et de la certification et puis le fait aujourd'hui que nous devons être innovants et donc transgresser. Bon, d'autres l'ont dit aussi, mais c'est vrai qu'on peut peut-être sur le plan clinique parler d'une forte sorte d'injonction paradoxale qui ne vient que se surajouter à d'autres insécurités que vous avez déjà évoquées. Alors c'est vrai que je me suis demandé aussi d'où venait le problème. Alors je me suis dit, tiens, allons voir les définitions. Et j'ai eu un fantasme, mais en vous entendant, M. Trépeau, vous l'avez défait. Je pensais que comme cette méthode nous est des États-Unis, donc était une approche plutôt anglo-saxonne, et comme le terme évaluation a quand même une connotation différente, que disons aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, ça se passait mieux que pour nous. Parce qu'effectivement, le terme évaluer en anglais, evaluation, c'est examiner, estimer, reconnaître. Et j'ai même vu une traduction qui est valoriser. Alors qu'il est clair que pour nous, le terme d'évaluation en français signifie mesurer pour juger, trier, étiqueter, sélectionner. On a parlé de procès. Le mot jugement me paraît approprié. Donc est-ce qu'il n'y a pas là aussi déjà un détournement par rapport au projet initial qu'avaient les initiateurs de cette méthode, effectivement qui date des années 50 et qui est peut-être dans une logique de stimulation dans un monde où l'économie était stabilisée et il fallait pousser les gens de l'intérieur. Donc je dirais, c'est vrai que c'est quand même la question de l'évaluation, un problème de positionnement qu'on retrouve d'ailleurs avec la multiplicité des termes, vous l'avez dit aussi, entretien d'évaluation, entretien d'appréciation, le terme affreux, entretien de notation, qui existe encore, je crois, entretien de performance, entretien de progrès. C'est vrai que j'apprécie le terme de la loi du 4 mai 2004 qui nous dit entretien de développement professionnel. Dans certaines entreprises, on entend le terme, je dirais, plus acceptable, semble-t-il, d'entretien professionnel. En tout cas, il me semble que la sémantique a sûrement, je dirais, un intérêt et révèle certainement une conception plus ou moins consciente disons des modèles impensés parfois qui inspirent les pratiques managériales. Bon, alors après, comme je ne savais pas tout à fait à qui j'avais affaire, je me suis dit peut-être ça vaudrait quand même la peine de rappeler brièvement les fonctions officielles de l'entretien d'évaluation, mais rassurez-vous, je ne rentrerai pas dans la, comment dirais-je, la mécanique, les clés à molette, quoi, etc. Ce qui m'intéresse effectivement c'est plutôt de voir la dimension symbolique, hein, de cet événement. Donc c'est vrai que c'est l'occasion d'évaluer les performances, on y analyse les réussites et les difficultés, on y explore les compétences, j'y reviendrai là-dessus, à travers la notion de référentiel. C'est aussi le moment théorique, paraît-il, pour se projeter dans le futur, mais là encore un futur bien particulier qui est celui de l'entreprise. C'est aussi, paraît-il, l'occasion de se demander quels sont les besoins de formation. C'est vrai aussi qu'on peut passer des contrats, bon, négocier. Voilà un peu la définition officielle. Et c'est vrai que je reconnais, sans avoir fait d'enquête personnelle, mais ayant beaucoup entendu, fréquenté, audité des cadres, que je peux dire aussi que 80% des gens que j'ai entendus en France, en tout cas, étaient assez insatisfaits de cet événement. Et certains, d'ailleurs, étaient même traumatisés par cet événement. Et c'est peut-être là-dessus que j'insisterai un petit peu davantage. Oui, simplement, j'ai quand même une idée. J'ai vu certaines entreprises qui dissociaient l'entretien de développement professionnel, de l'entretien lié à la rémunération. Et il me semblait que ça se passait mieux quand on dissociait ces deux perspectives. Alors que lorsqu'on les croisait, visiblement, ça contaminait celle qui pouvait être le plus bénéfique, à savoir celle du développement des compétences. Voilà, alors je me permettrai quelques constats que j'ai appelés cliniques, qu'on pourrait appeler quelques dysfonctionnements. J'en ai identifié quatre, que d'ailleurs vous avez décrits, que je formulerai donc à ma façon. Le premier, c'est vrai qu'on a l'impression d'une inflation procédurale et on a l'impression d'une véritable opération de mise en conformité par rapport à des référentiels. Alors pendant des années, j'étais très fier de pouvoir construire des référentiels et depuis quelques temps, je suis gêné. Parce que j'ai l'impression que ce sont des outils utilisés pour mettre derrière des grilles, finalement, des individus. Et on a l'impression que ces référentiels sont des systèmes de codification très normés et très réducteurs, finalement, y compris de la compétence, à mon sens, puisque ça ne cerne que les compétences explicites et que les acteurs font souvent appel à des compétences implicites tout aussi riches qu'il est difficile, en tout cas, de formaliser de cette façon. J'ai remarqué que cette sorte de fascination pour les grilles d'évaluation, on le retrouverait dans d'autres lieux. Par exemple, j'ai participé à différents comités de VAE, validation des acquis d'expérience. Et là, j'ai été étonné de voir comment on traitait les autodidactes. Parce qu'effectivement, un autodidacte n'a pas le code social, disons, de l'académie. Donc, parle plutôt de ses expériences sur un mode qui, en général, qui est assez spontané, émotionnel. Et ça, les évaluateurs académiques ont l'air assez mal à l'aise parce qu'ils ont l'impression que l'individu ne fait pas de lien avec des concepts. Et j'ai été très surpris de voir combien les autodidactes dans les entretiens d'évaluation de VAE étaient finalement souvent éliminés parce que, finalement, ne possédant pas le code, sans que pour autant on puisse, du point de vue d'une certaine rationalité, considérer qu'ils étaient effectivement privés des compétences ou des connaissances qu'on espérait pouvoir trouver à travers leur expérience. Donc là, je trouve qu'il y a un gros problème dans la subjectivité des évaluations, que ce soit en entreprise, dans d'autres lieux. Alors j'ai certains de mes étudiants aussi qui me désespèrent en me disant « Monsieur, dites-nous quelles sont vos attentes ?» Donc on voit souvent que l'évaluation est liée à une sorte de mise en conformité. Alors je me dis « Quelles conséquences cognitives cela peut avoir chez des étudiants que pendant finalement 4 ans, qu'est-ce qui se passe dans leur esprit ?» Que deviennent-ils si l'essentiel consiste à se mettre en conformité, alors que précisément le monde de demain est, paraît-il, constitué de 80% de produits qui n'existent pas encore. Et là, je ressens un énorme malaise personnel. Enfin, bon. Je l'ai déjà dit, risque de focalisation sur la procédure et puis, bon, l'importance de l'écrit. Bon. Alors, il y a également un autre risque qu'on rencontre très fréquemment, je dirais, c'est d'enterrer les entretiens d'évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de traitement. Pourquoi ? Parce que le service ressources humaines n'a pas le temps de le faire. Bon, j'imaginais que c'est peut-être un service à inventer, puisque les gens de l'intérieur ne peuvent pas le faire. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de réutiliser toutes ces informations ? Parce que finalement, on a là plusieurs audits cumulés. Un audit d'organisation, qui est quand même très intéressant, puisque les gens quand même parlent de leur travail et donc à travers cela évoquent, certaines difficultés qui finalement pourraient générer des changements. On a aussi la possibilité de faire un plan de formation un peu plus cohérent, dont tout le monde sait les dérives des plans de formation. Donc je trouve un peu étrange qu'effectivement, il n'y ait pas une analyse qui soit réellement faite. Et ce qui veut dire que c'est une procédure qui semble quand même un peu vide de sens et qui, d'ailleurs, est assez. Je me souviens d'une entreprise où j'étais intervenu en tant qu'auditeur avec une équipe. On avait audité les 150 salariés. Tous nous avaient dit qu'ils ne faisaient pas d'entretien d'évaluation. Alors nous sommes allés ensuite faire une restitution auprès du directeur général, qui a fait un bond comme ça sur son bureau, et en fait qui a ouvert un tiroir et qui a sorti un gros tas donc, de documents qui étaient en fait tous les entretiens d'évaluation. Et je vous assure, la perception que les salariés avaient, c'était qu'il n'existait pas d'entretien d'évaluation. Mais je crois que du point de vue, effectivement, du sens, il n'existait rien. Il n'existait qu'un acte administratif et procédural. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Donc, il y a certainement une certaine déception, un certain désenchantement, parce qu'il y a quand même des attentes, vous l'avez dit. Et je crois que ça, ce n'est pas la pire des choses. Mais il me semble aussi que ces entretiens, parfois, peuvent être le lieu d'une violence symbolique extrêmement perturbante pour le narcissisme des salariés. Entre-temps, en fouillant sur Internet, je découvre avec joie que la SNCF se pose les mêmes questions que moi. Donc ça me rassure, parce que des fois, quand on a l'impression de se poser des questions un peu étranges, on a l'impression de devenir fou. Alors, c'est toujours bien de voir que d'autres se la posent. La SNCF va essayer d'alléger ses procédures. Il paraît que c'est l'entreprise en France où on a le plus. Donc c'est bien de voir que le non-sens au quotidien et les procédures, il semblerait qu'il y ait un lien. C'est sûr qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de relation quasi magique à la procédure. Alors c'est vrai que moi, j'ai un peu les qualiticiens dans le collimateur, je m'en excuse, mais il y a une sorte de fascination pour la procédure qui fait penser qu'il suffit de mettre en fiche, finalement, certains processus pour que ceux-ci se réalisent tel que c'est écrit. Je trouve un peu étonnant cette, glorification de la procédure. Elle me semble un peu défensive, mais enfin, bon, c'est peut-être une mauvaise pensée. Bon, en tout cas, il y a, des risques de violence symbolique, et c'est peut-être là-dessus que je peux insister, par rapport à ce que vous avez apporté, M. Trépeau. Donc c'est vrai que ce sont quand même un espace où théoriquement la subjectivité devrait peut-être être plus développée. Or, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont faites pour la limiter. Ensuite, on a l'impression que le sujet n'est reconnu qu'en tant qu'il n'a accompli une performance ou qu'il peut être performant, qu'en dehors de ça, ça n'intéresse personne. Donc la dimension du sujet me paraît un peu absente, la dimension de la personne aussi. Dans certains cas que j'ai un peu plus étudiés, pour en avoir souffert moi-même, je dois le dire, et donc il a fallu me réparer, donc un article, c'est vraiment un bon moyen. Et c'est vrai que j'ai constaté que lorsqu'on a du pouvoir, ou que lorsque certains cadres et managers avaient du pouvoir, cela pouvait être très perturbant pour eux, et qui développaient des pathologies mentales que vous avez identifiées. Moi j'en ai identifié deux particulièrement impressionnantes, c'est le narcissisme. Donc le manager, finalement, utilise l'autre pour sa propre glorification. C'est assez impressionnant vu de l'extérieur. Et puis on a le manager pervers, c'est beaucoup plus grave, parce qu'il utilise l'autre pour se réparer, mais finalement l'autre n'est qu'un objet, ce qui est évidemment extrêmement désagréable, et parfois même ça s'accompagne, comme ça a été dit tout à l'heure, de pratiques d'humiliation qui permettent d'assurer sa propre, rassurer sur sa propre image. Bon, je pense que là, on a un problème. En tout cas, c'est vrai qu'on peut sortir blessé narcissiquement, et la blessure narcissique, c'est quand même quelque chose qui fait très mal, parce que ça touche à l'estime de soi, et lorsqu'on perd l'estime de soi, ça devient très douloureux. Bon, alors, rationalité, c'est sûr que c'est un événement, disons, rationalité limitée. Je ne sais plus quel grand auteur a dit que c'était les technologies invisibles du pouvoir. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Ce sont des pratiques discutables, généralement, c'est vrai, peu discutées. Et c'est dommage, parce que je pense qu'elles ont leur intérêt. Donc là aussi, à la fin de mon exposé, j'ai quelques suggestions, peut-être oniriques à faire, mais on ne peut pas laisser non plus, disons, les acteurs sans proposition. Voilà, alors, en tant qu'ancien clinicien défroqué, si vous voulez, c'est vrai que quand on est face à ce type d'événement, on pense au miroir de Lacan. Alors moi, si vous voulez, il y a deux théories là que je trouve impressionnantes, c'est Bowlby et Lacan. C'est vrai, c'est le stade du miroir, où Lacan nous montre que finalement, la constitution de soi en tant que sujet, finalement, se fait très tardivement, puisque finalement, c'est au bout de simplement la troisième ou quatrième année que l'enfant se reconnaît dans le miroir. Et encore, il se reconnaît parce que d'autres le nomment. Et Lacan pose l'hypothèse que ce mécanisme, finalement, donc est permanent tout au long de son existence et que, finalement, on a une sorte de dépendance dans le regard d'autrui. Mais je serais un peu plus optimiste que quelques intervenants passés. Je pense que si la confiance en soi, enfin si une certaine résilience s'est opérée, c'est-à-dire que si on a pu accumuler quand même un capital d'estime de soi-même, et je m'excuse d'utiliser ce terme, capitalisme, je ne peux pas faire autrement. Si un certain stock d'estime de soi s'est constitué, il me semble que la dépendance à autrui est quand même moins grande. Et il me semble qu'au long de l'existence, on peut accumuler des expériences assez positives qui peuvent peut-être nous permettre de nous libérer d'expériences peut-être anciennes, plus douloureuses, ou que nous avons cru qu'elles étaient plus douloureuses. Alors évidemment, je pense aussi à Hegel, mais ça vous l'avez dit, hein, la conscience de soi existe en et pour soi, dans la mesure et par le fait qu'elle existe en et pour soi, pour une autre conscience de soi. Bon, c'est limpide. Alors justement, je ferai un petit détour pour remercier les théoriciens, parce que moi je suis consultant, donc il fut un temps où les consultants, vous savez, il faut être pragmatique, il ne faut pas de concept, les gens ne vous disent pas d'état d'âme. Et quand même, les théories nous sont très utiles pour comprendre parfois des situations complexes en entreprise. Et lorsque justement on arrive à trouver les mots, parce que certains chercheurs ont fait le travail pour nous, on devient très efficace après dans l'intervention. Bon. Donc nous construisons en miroir dans les organisations, en miroir dans le regard de nous, d'autrui, et aussi en miroir dans le regard de nos managers. Parce que effectivement, la relation de subordination est quand même une relation de type transférentiel, par, je dirais, nature. Parce que nous sommes dépendants déjà de l'autre, même s'il y a un contrat qui limite, je dirais, les risques d'abandon, c'est quand même par nature une relation de subordination. Donc c'est forcément une relation transférentielle où on attribue à l'autre un pouvoir plus grand que nous qui renvoie quand même à une figure d'autorité. Bon, alors Goléjac, que vous connaissez, je serai aussi très rapide parce que le temps est compté, mais me paraît très intéressant parce qu'il permet de comprendre un peu ce jeu de miroir. C'est-à-dire, en fait, je trouve qu'il nous permet d'entrer dans le miroir. Chacun d'entre nous avons un idéal du moi. L'organisation aussi a un idéal du moi. Et ce qu'on appelle le fameux contrat narcissique, hein, que quelques-uns ont évoqué. que j'assimile, pour le résumer, moi, quand même, à la relation amoureuse, bien que ça soit de type certainement différent, mais je trouve que c'est les mêmes mécanismes. Parce que, en fait, disons qu'il faut se mirer dans l'idéal du regard de l'autre. Tant que vous êtes en conformité avec l'idéal de l'autre, tout va bien. Dès que vous êtes un peu en écart, apparemment, ça pose problème. Voilà, donc Golé-Jacques nous explique tout le mécanisme. Je ne vais pas me permettre de vous le détailler dans le détail. Il met l'accent sur la mobilisation des idéaux de l'individu et sur l'affaiblissement du moi. C'est vrai que plus nous nous identifions aux idéaux de l'organisation, plus nous perdons le contact avec nous-mêmes, nous dit-il, plus notre moi s'affaiblit et plus finalement la part de l'entreprise va prendre de la place, ou la part professionnelle va prendre de la place dans son existence, puisqu'on va attribuer à cette sphère une valeur imaginaire, finalement, fantasmatique, pour lequel nous serons prêts à payer un certain prix qu'il appelle le coût de l'excellence. Donc effectivement, nous pourrons devenir très performants, mais au prix d'un certain renoncement à soi-même. Bon, c'est le jeu. Pour être performance, il faut renoncer un peu à soi-même. Bon, les sportifs nous l'ont montré déjà, les artistes aussi. Mais le problème, c'est que quand cette captation est trop grande, donc c'est ce qu'on appelle l'emprise, c'est ce que font très bien les sectes, eh bien l'individu disparaît, et donc il y a une sorte de captation totale des idéaux de l'individu, et donc une fragilité d'individu. Et c'est vrai qu'on sait que les personnes qui sont confrontées à ces situations de problèmes de secte sont des gens qui ont des problèmes d'image, fragilité, d'estime d'eux-mêmes, etc., qui les rend évidemment plus fragiles. Voilà, bon, alors, je vais peut-être simplement insister sur l'effondrement, parce que, par ailleurs, j'ai été amené à étudier, j'aime pas très ce mot, à rencontrer ou interviewer, si vous voulez, des personnes ayant vécu des restructurations dans le monde industriel, mais à partir d'un modèle qu'on appelait le modèle des managements de restructuration par la crise. En gros, vous êtes viré en quelques temps, vous avez travaillé 30 ans dans l'entreprise et vous êtes viré en quelques minutes. Donc là aussi, on constate que les individus qui sont confrontés à ce type de traumatisme subissent souvent des états dépressifs assez prolongés. Bon, une de mes hypothèses, c'était que leur difficulté à retrouver du travail n'était pas seulement liée à leurs compétences, on va dire, liées à des métiers en voie de disparition, mais qu'il y avait une telle blessure narcissique, qui n'était pas traitée d'ailleurs ensuite par les systèmes d'accompagnement de chômage, qu'on pouvait penser que ça pouvait compliquer terriblement leur recomposition, et rendre le retour à l'emploi, on va dire, beaucoup plus lent du fait de cette blessure narcissique terrible, qui d'ailleurs est très bien évoquée quand il suffit d'écouter les reportages faits soit à la radio, moi j'en ai collectionné une centaine, quand même les gens parlent avec beaucoup d'émotion, on voit bien qu'ils ont perdu une partie d'eux-mêmes et qu'il va falloir du temps, comme dans une relation amoureuse, pour retrouver ce qu'ils ont perdu. Parce que finalement, ça aussi c'est Enriquez hein, qui nous dit qu'on dépose dans les organisations une partie de nous-mêmes. Enfin bref, je trouve assez paradoxal que d'un côté, on exalte l'implication des acteurs en manipulant les idéaux de ces des individus, et qu'au moment où la contingence, enfin la réalité, disons, économique est là, on fasse appel à des pratiques qu'on pourrait qualifier effectivement de sensibilité, d'aucune civilité. Ça, c'est Jean Foucard, le sociologue aussi, qui utilise ce terme que je trouve très approprié pour qualifier les ruptures sensibilité qui sont faites. Et cela génère, en termes d'estime de soi-même, des blessures finalement qu'on sous-estime et qui ont probablement un impact considérable dans la difficulté qu'aura un individu à se reconstruire, surtout qu'ensuite il va rencontrer que des acteurs qui vont utiliser des procédures ou des méthodes instrumentales sans vraiment prendre en compte cette souffrance, on va dire, souterraine qui vient encombrer le processus de recomposition de l'individu. Bon, alors, il se trouve que là aussi, il y avait dans l'actualité trois événements que tout le monde connaît. Jérôme Kerviel, hein, qui ne fait que confirmer les hypothèses que nous avons, qui nous dit clairement que si il bricole les informations, c'est pour obtenir la reconnaissance de ses pairs, puisqu'il a un sentiment d'être un peu dévalorisé. Il se trouve que le même jour, il y avait un autre ingénieur qui s'appelle Marwan, je m'excuse de le citer, qui chez Michelin a été tenté de confier des secrets de fabrication au concurrent, et qui nous dit clairement qu'il le fait parce qu'il a vécu une déception. Et enfin, se suscite du cas de la PNP, très récent, qui nous explique qu'il ne pouvait pas supporter les critiques de sa hiérarchie, qui lui reprochait de ne pas tenter de vendre certains produits financiers que lui estimait éthiquement suspects. Bon, on voit jusqu'où peut quand même conduire la blessure narcissique à ce niveau-là. Alors, bon, pourquoi avons-nous tant besoin de reconnaissance? C'est vrai. Bon, ben là, Lacan nous parle de l'aliénation fondamentale du sujet. Donc, c'est vrai que, Spitz, avec l'hospitalisme, vous savez, nous a montré que les nourrissons, dans les années 50, mouraient à l'hôpital par manque, finalement, d'attention. Donc, c'est certain que nous avons besoin de l'attention des autres. Je voulais simplement nuancer en disant qu'il me semble que si, dans notre existence, il y a des événements suffisamment positifs, fondamentaux, qui ont été vécus, que cela crée une certaine résilience qui nous rend quand même moins fragiles et donc moins demandants du regard d'autrui. Voilà. Bon, pour terminer, oui, existe-t-il, donc ça c'est peut-être une utopie, de faire du temps de l'évaluation un moment d'exception ou un moment inédit, c'est peut-être plus juste. Alors j'utilisais le terme d'exception en disant que finalement c'était un temps exceptionnel parce que pour une fois le sujet pouvait parler. Mais je suis d'accord aussi pour dire qu'il ne peut pas parler si ça ne se produit qu'une fois. C'est vrai qu'il faut que le sujet puisse exister à minima tout au long de la relation managériale, sinon ça... C'est pas lourde. Il me semble qu'il y a quand même des éléments importants dans ce dialogue qui mériteraient d'être autorisés, finalement. Il me semble quand même que dans un entretien d'évaluation, il faut qu'on puisse parler quand même de la charge émotionnelle. Et les managers, apparemment, sont peu formés à cette écoute, parce que travailler, c'est quand même pas toujours facile. Et je pense que la vécu subjective des acteurs, je ne suis pas le seul à le penser, d'autres le pensent, que la subjectivité, c'est quelque chose qui peut être une source d'information extrêmement précieuse pour le manager. Bon, il est vrai que moi, mon métier a consisté pendant des années à écouter les gens, et j'ai toujours été frappé que des gens dits de première ligne avaient conscience très tôt des risques que pouvait encourir une entreprise. Mais cette perception était totalement émotionnelle. Je donne un exemple de quelqu'un auquel je pense, qui était ouvrier dans une usine de mécanique, qui dit « Oui, il y a 10 ans, on avait de moins en moins le temps de se parler, on voyait bien que le patron ne réinvestissait pas, et en fait, cette entreprise a périclité au bout de 10 ans. » Et lui avait déjà subjectivement ressenti un malaise qui était, à mon sens, certainement une sorte de traduction d'un problème d'ordre peut-être plus systémique et peut-être d'ordre stratégique. Enfin, ça, c'est une hypothèse que j'aimerais bien creuser très sérieusement. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un temps de construction de l'identité à travers de la projection de soi-même dans le temps, donc demain, mais je dirais aussi dans l'espace, parce qu'il me semble que se projeter uniquement à travers les métiers de l'entreprise, c'est peut-être un peu limité aujourd'hui. Là aussi, il semble que les managers n'aient pas... il manque quelque chose parce qu'en fait il faut aussi pouvoir se construire par rapport à l'espace. On sait bien qu'une entreprise, notamment les PME, moi j'interviens beaucoup en PME, sont des lieux de transition professionnelle et ne sont pas des lieux de carrière professionnelle définitif. J'ai travaillé avec l'entreprise de Citre et je dois dire qu'on avait mis en place dans l'entretien un temps où les gens pouvaient imaginer qu'est-ce qu'ils pouvaient faire éventuellement en dehors de l'entreprise, parce qu'on s'était aperçu qu'à l'âge de 35 ans, bon, les gens qui ont Bac+5 souvent envisagent de changer de métier. Je trouvais ça assez intéressant, mais très difficile à reproduire. Bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est certainement un moment où on peut avoir beaucoup d'informations sur la vie de l'entreprise, les problèmes de l'entreprise, l'organisation collective du travail. On s'en prive, dommage. Enfin, nous, ça nous fait vivre, les consultants, c'est bien. Dispositif. Alors là aussi, sur le dispositif, de plus en plus, on pense qu'il serait peut-être intéressant de rendre cet événement plus collectif. Moi, je serais partisan, en fait, d'avoir une phase individuelle et une phase collective parce qu'en fait, on se travaille tous en projet, comme ça a été dit. On a tous, en fait, plusieurs managers dont on dépend. Et c'est vrai, souvent, on est évalué par un seul, alors qu'on a dépendu de 4-5 personnes qui vous ont donné des projets à mener. Et peut-être que ça serait intéressant de faire une évaluation collective, non pas peut-être sur l'individu, mais peut-être sur les projets de l'équipe. Enfin, il me semble qu'il y a une dimension collective à trouver. Moi-même, d'ailleurs, j'ai commencé une grève, une résistance personnelle. Mon prochain entretien d'évaluation, je ne le ferai pas si tous les gens qui n'ont pas m'ont confié des projets ne sont pas présents dans l'entretien. Bon. Ensuite, attitude maïotique plutôt que, bien sûr, attitude surmoïque. Hein, le jugement, c'est le surmoi. La maïotique, c'est quand même faire accoucher quelqu'un. Sûrement que ce n'est pas facile de passer, lorsqu'on a du pouvoir, d'une attitude surmoïque à une attitude maïotique. Mais bon, peut-être qu'une formation, je ne sais pas, qu'elle pourrait aider. Peut-être même de participer à des journées comme celle-ci me paraîtrait très éclairante. Parce que les managers, au niveau des outils, je crois qu'ils sont au point. Ce qui leur manque aujourd'hui, justement, c'est d'être problématique et pas dogmatique. Je crois que c'est ce que permet la recherche. Bon, je me disais que la présence d'un tiers, dans un premier temps, pourrait être une protection. Parce que finalement, c'est un apprentissage, la maïotique, le dialogue démocratique, surtout quand on est névrosé. Donc d'avoir, si vous voulez, je dirais, un tiers, peut-être une solution. On peut aussi penser à l'entretien, donc à l'évaluation 360 degrés, pratiquée notamment chez Volvo, où ce sont les salariés qui peuvent ensuite évaluer leur manager, bon, histoire de rééquilibrer un peu les choses. Bon, évidemment, je reviens à la préoccupation systémique. On a des informations quand même très intéressantes. C'est très important qu'il y ait des changements visibles pour les gens, sinon ils se demandent à quoi ça sert. Comme moi d'ailleurs, et vous peut-être. Voilà. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Merci.